Et pour clore cette journée consacrée aux nuits de la lecture, avec pour thème la peur, eh bien, perdons-nous dans les notes de musique de films tirées de livres d'horreur et d'épouvante. Aussi, avec Charlie, on tâchera d'en être vos guides pour en sortir de tout ça ou non. C'est la BO de la peur. Commençons donc avec Goblin, groupe de rock progressif italien et dont on entend là la musique composée pour Suspiria en 1977, le film de Dario Argento qui a régulièrement fait appel au groupe dans ses films dans les années 80. On est plongé dans le paranormal, dans le milieu sans pitié de la danse classique. Suspiria appartient au giallo. C'est un genre qui est situé aux frontières du policier, de l'horreur et de l'érotisme, qui a connu sa grande période dans les années 60 et 80. Alors bien que l'inspiration du film soit multiple par des voyages, la grand-mère de sa compagne, Daria, également scénariste du film, pour le scénario du film, Argento s'est inspiré d'un passage d'un livre écrit en 1845, Suspiria de Profundis, du Britannique Thomas de Quincey, et dans lequel l'auteur évoque un rêve fait au sujet de trois sœurs funestes. Alors autour de cette idée originale, Dario et Daria ont construit une légende, celle des trois mères qui avaient été trois sœurs diaboliques qui, au XIe siècle, avaient jeté les bases de la sorcellerie. Pour raconter cette histoire d'une jeune américaine intégrant une grande école de danse classique allemande réputée, Dario Argento a déclaré avoir essayé, avec Suspiria, de mélanger l'univers des contes de Walt Disney et de Grimm avec la violence de l'exorciste. Et pour le rôle de la jeune danseuse, le réalisateur a choisi Jessica Harper, après l'avoir remarqué dans Phantom of Paradise, le film musical de Brian De Palma, qui a lui-même engagé l'actrice après l'avoir vue dans une pièce de Broadway, trouvant sa voix incroyable. Alors on écoute avec Special to Me, titre de la BO de Phantom of Paradise signé Paul Williams, la voix incroyable de Jessica Harper. Paul Williams, également acteur du film, a laissé sa patte sur le dernier album de Daft Punk, où on reconnaît donc cette touche glam rock qu'on vient d'entendre, qui caractérise très bien Phantom of Paradise, qui appartient au clan des films dont la sortie fut un échec, mais qui sont devenus avec le temps cultes. Il est librement inspiré du roman policier fantastique Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Ce film est en partie inspiré par l'expérience traumatisante qu'a vécu Brian De Palma sur le tournage de son film Get to Know Your Rabbit, dans lequel il a dirigé Orson Welles. Produit en 72 par la Warner Bros., il en a été renvoyé. Et monde sans pitié, il s'est vu alors dépossédé de son film. Et là, hein, vous nous voyez arriver avec les petites notes de Tubular Bells composées par Mike Oldfield. Je parlais à l'instant d'une expérience traumatisante. À ce sujet, c'est vraiment peu dire concernant ce film et à tous les points de vue, donc on ne va pas refaire toute l'histoire ici. Je parlais également à l'instant d'être dépossédé de quelque chose, donc là, en fait, c'est l'inverse. Et comment y remédier ? L'exorcisme est un rituel religieux destiné à expulser une entité spirituelle maléfique, qu'on pourrait dire le démon. Chez le ou la possédé, on distingue un état de calme et un état de crise. L'état de crise se traduit par des contorsions, des éclats de rage, des paroles impies et blasphématoires. Pendant la période de calme, tout est généralement oublié et le comportement redevient bien adapté, voire très pieux.
Vendredi 22 avril. Pendant que Chris attendait dans le vestibule devant la chambre, le docteur Klein et un neuropsychopathe fort réputé examinaient Regan. Les médecins l'observèrent pendant une demi-heure. Elle gesticulait, tournait sur elle-même comme un toton, s'arrachait les cheveux, grimaçait parfois en se bouchant les oreilles des deux mains comme pour se défendre d'un bruit assourdissant. Elle vociférait des obscénités, hurlait de douleur. Et puis finalement, elle se jeta la tête la première sur le lit, ramenant ses jambes sous son ventre. Elle poussait des gémissements incohérents. Le psychiatre entraîna Klein à l'écart. « Donnons-lui le tranquillisant maintenant, » chuchota-t-il. « Je pourrais peut-être lui parler. » Le médecin acquiesça et prépara une piqûre. Lorsque les docteurs s'approchèrent du lit, Regan parut deviner leur présence et se retourna vivement sur la défensive. Comme le psychiatre s'efforçait de la maintenir, elle se mit à hurler avec fureur. Elle le mordit, lui tint tête, réussit à le repousser. Ce n'est qu'après avoir appelé Karl à la rescousse pour les aider qu'ils purent l'immobiliser suffisamment pour permettre à Klein de lui faire la piqûre. La dose se révéla insuffisante. Ils décidèrent d'une nouvelle injection de 50 mg, puis attendirent. Regan devint docile, rêveuse. Elle regarda les deux médecins avec une soudaine stupéfaction.
« Où est maman ? Je veux voir maman. » Quand William Peter Blatty nous raconte cette scène dans son roman, on la visualise parfaitement avec les images de William Friedkin. Et pour cause, Blatty est également scénariste du film et en recevra d'ailleurs un Oscar. Un livre qui, dans quasiment la foulée, est devenu un film, culte, avec un S, ayant intégré la culture collective, avec une seule note, une image, un mot, tout se forme en une seconde dans nos têtes. Et sans avoir même besoin de le nommer. À la mort de son auteur, en janvier 2017, Stephen King lui a rendu hommage. Repose en paix, William Peter Blatty, qui a écrit le plus grand roman d'horreur de notre époque. Un de ses 12 jours, vieux Bill. Ça, c'est Christine, une automobile vivante, vénère et sadique, tout droit sortie de l'imaginaire de Stephen King et portée à l'écran et en musique par John Carpenter et Alan Howarth en ce qui concerne la musique. John Carpenter, qui voyait ce film, qui était une commande, comme un job et dont l'adaptation a déçu King, mais dont l'accueil du public fut très chaleureux. Thank you. Avec ce son, on revient dans une certaine modernité. On est dans les années 88, au volant d'une Plymouth Fury, modèle 1958, rouge et blanche. Un son qui rappelle d'ailleurs celui de Kaminsky, qui a fait la musique de Drive. Si le cinéma américain fut longtemps le berceau de l'horreur en Occident, un film changera la donne et les fuseaux horaires de l'épouvante bougeront. Ring, du japonais Hideo Nakata, sorti sur nos écrans en 1998 et réalisé d'après le roman du même nom par Koji Suzuki. Signé Kenji Kawai, la musique du film nous familiarise avec le Yurei. C'est ce fantôme japonais qui reste parmi les vivants et qui traverse littéralement nos écrans.
J'ai relevé machinalement la tête et j'ai vu Sadako Yamamura. Que faisait-elle devant cette télévision débranchée? Elle regardait fixement l'écran sans faire attention à moi et un léger sourire flottait sur ses lèvres. Les démons apparaissent sous des formes différentes à chaque époque. On a beau essayer de s'en débarrasser, elles reviennent toujours.
Ceux qui reviennent toujours. Et le vampire, est-il l'un de ces démons? Lui qui traverse d'un seul corps les années, les siècles. Il y a un moyen de s'en débarrasser par contre, enfin. On le croit, mais il revient souvent à l'image, sans reflet paraît-il, du vampire Lesta, laissé pour mort par ses compagnons aux dents longues et qui est un des héros d'Entretien avec un vampire, le film de Neil Jordan. Une image s'impose alors, celle de Tom Cruise qui prête ses traits au vampire, au volant d'une décapotable, la bouche rouge de sang, rire aux éclats. Fin du film sur Sympathy for the Devil, reprise pour le film par les Guns N' Roses.
Allow me to myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me, damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg. When I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers. Anastasia screaming vain. I rode a tank, held a general's rank. When the blitzkrieg rained and the bodies stank.
Bien que s'inscrivant dans le genre du roman de vampire, avec Entretien avec un vampire, publié en 1976 et dont le film, qui a été adapté en 1994, l'écrivaine Anne Rice n'en rompt pas moins avec la tradition en présentant le vampire à la sensualité homoérotique comme une créature romantique qui aime et qui souffre, à l'image, toujours sans reflet, de Louis. Louis qui semble bien loin du comte Dracula et héritier, symbolisant alors le mal. Dracula, né de la plume de Bram Stoker en 1897, après 10 ans de recherche, à la fin donc d'une époque victorienne à la prestance ébranlée, dans un contexte où les codes alors établis sont remis en question par la littérature, regardant alors en face son époque et sa réalité. 95 ans plus tard, soit des poussières pour un vampire, Francis Ford Coppola l'adapte au cinéma et on écoute une véritable ode aux vampires avec Annie Lennox, qui chante A Love Song for a Vampire, composé spécialement pour le film. Come into these arms again and lay your body down. There is a mother's strength. Beating like a drum.
Lucie Gisella, tout à fait semblable à la Lucie que nous avions tellement admirée la veille de ses funérailles. Elle était, si c'était possible, plus belle encore qu'auparavant. Pas plus que la semaine dernière, je ne pouvais croire qu'elle fût morte. Ses lèvres avaient un éclat rouge, plus rouge que dans la vie, et les joues étaient délicatement colorées. C'est un mauvais tour ?
Êtes-vous convaincu à présent ?
Tout en parlant, elle tendit la main et, d'un geste qui me fit frémir, releva les lèvres cramoisies pour me montrer les dents.
Regardez, encore plus blanche et plus aiguë que de son vivant. Et c'est avec celle-ci et celle-là que les petits-enfants ont été mordus.
Ce disant, elle désignait les deux canines gauches.
Alors, ami John, vous êtes convaincu à présent ?
Un dernier sursaut de scepticisme s'empara de moi. Je ne pouvais pas accepter une idée aussi terrible. Aussi, mu par une volonté de contradiction qui me rendait, je l'avoue honteux, je déclarais « Peut-être l'a-t-on replacé dans son tombeau depuis hier ?»
Merveilleux. Et qui donc ?
Je ne sais pas. Quelqu'un ?
D'ailleurs, elle est morte depuis une semaine. La plupart des gens dans cet état ne ressembleraient pas à ceci.
À ce dernier argument, je n'avais pas de réponse. Je me tus.
Les adaptations de Dracula de Bram Stoker sont nombreuses. L'œuvre littéraire permet alors de donner naissance au premier film d'horreur de l'histoire, avec Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau en 1922, avec une musique d'Herrmann. Cela reste tout de même une adaptation officieuse car Murnau voulait éviter de payer les droits du film et a changé les noms des personnages et des lieux. Et le film est vraiment, mais vraiment super flippant. On poursuit cette BO de la peur en restant sur la note du sang qui se boit, qui dégouline et qui se déverse aussi. Adapté du premier roman de Stephen King publié en 1974, Carrie, le film de Brian De Palma sort en salle en 1976. Le réalisateur confie la partition musicale à Pino Donaggio, qui devait être à l'origine signé par Bernard Herrmann, qui décède avant le tournage. Donaggio rendra hommage au compositeur à travers le jeu strident des violons, dont on a un petit peu entendu le jeu, et comme Herrmann l'avait fait pour la scène, la fameuse scène de la douche. Ed Gein est né en 1906 dans le Wisconsin, USA. De père alcoolique, il est élevé avec son frère Henry par une mère qui est une luthérienne fanatique qui décourage tout désir sexuel chez ses fils de peur que ceux-ci aillent en enfer, les méprisant, persuadés qu'ils vont devenir des ratés comme leur père et les privant de tout contact avec les autres durant leur adolescence et leur vie d'adulte. Ed lui est resté néanmoins attaché, jusqu'à lui vouer un culte. Le 29 décembre 1945, alors qu'il a 39 ans, le décès de sa mère est pour lui une catastrophe. Livré à lui-même pour la première fois de sa vie, il refuse cette mort et tente tout pour la faire revivre, en commençant par des incantations devant sa tombe. Il se met alors à déterrer des cadavres et découpe leur peau pour se faire un habit humain de femme riche. En 1974, une femme du coin disparaît. Une seconde femme en 1957, dans une proche région du comté. Ed Gein a été vu en train de rôder du côté du magasin de cette dernière. La police se rend chez lui et découvre l'horreur. Le boucher de Plainfield, comme on le surnomme alors, est accusé d'avoir officiellement, assassiné deux femmes et mutilé plusieurs cadavres qu'il a déterrés. Le 22 novembre 1957 s'ouvre son procès. Au même moment, Robert Bloch entend parler à la radio de cette histoire. Il n'habite pas très loin, se demande ce qui peut pousser un homme à de telles extrémités. L'imagination du romancier se met alors en marche et il en résulte le roman Psychose. Alfred Hitchcock adapte l'œuvre originale au cinéma 3 ans après le procès, en 1960. Et ouais, on change d'ambiance parce que bon, les abat-jour, les rideaux, les gants, les draps en peau humaine, on va faire juste une petite pause. Et là, on entend Los Tucanes avec El Puno de Polvo, une des musiques du film Perdita, Durango d'Alex de la Iglesia, et qui mêle romance et horreur avec un scénario d'après le roman 59 Degrees and Raining, The Story of Perdita Durango, avec mon magnifique accent anglais. Et ce roman est signé Barry Gifford. C'est lui, la série Sailor et Lula. Non bon, c'est bon, là je pense que Charlie c'est ok, on va revenir à la normale et nous allons conclure sur ces douces notes qui détendent les nerfs et qui nous apaisent. Et ouais. Thank you.
la coccinelle. Plus confiante maintenant que la pente se faisait moins raide, reprit sa montée et, pendant qu'elle grimpait, Danny, assis entre ses parents, n'arrêta pas de regarder par la fenêtre. De temps à autre, la route se dégageait, leur laissant apercevoir l'overlook dont les fenêtres de la façade étincelaient au soleil. C'était bien le bâtiment qu'il avait aperçu dans le blizzard de son rêve. C'était dans ces longs couloirs sonores tapissés d'une moquette à lianes qu'il avait fui le monstre à l'allure familière. C'était l'endroit contre lequel Tony l'avait mis en garde. Il n'existait donc pas qu'en rêve. C'était vers lui qu'il se dirigeait, maintenant, et trop mal l'y attendait.
Il paraît que l'avis de Stephen King sur l'adaptation de son livre était très mitigé. Shining est le 11e film de Stanley Kubrick, sorti en 1980. La compositrice de musique électronique Wendy Carlos, qui signe la BO du film, elle y est créditée sous le nom de Walter Carlos, comme pour Orange Mécanique. Pour Shining, ce qu'on entend à l'instant, elle a transcrit le Dies Irae de la Symphonie Fantastique de Berlioz, alors construit de burlesque et d'épouvante. Et d'emblée, on est d'accord, on a peur. C'est avec ce morceau que s'ouvre le film, et là déjà sonne le glas funèbre, et que se clôt cette émission, la BO de la peur. Vous pourrez retrouver toutes les références sur la page du podcast de cette émission. Une émission réalisée par Charlie, qui a également assuré la lecture. Merci à tous pour votre audition, pour votre attention. Et à bientôt sur Alternantes.